Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou. Okapi.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Nous allons nous intéresser à la grande session de l'examen d'État qui se clôture aujourd'hui. Alors, comment s'est déroulé, dans quelle ambiance l'examen s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national? On en parle avec Jacques Chimbalanga, coordonnateur national du CONEPT, qui est la coalition nationale pour l'éducation pour tous. Voilà. Et puis, on aura également Jacques Tati et moi Koupemba, coordonnateur national de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo. Des questions et préoccupations, composez les 099 706 99 41. Écrivez-nous à service@radiookapi.net.
Radio Okapi.
À Maagi.
Okapi.
Sur 96 FM.
Okapi.
Radio Okapi.
Célébrons ensemble le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À partir du 30 juin, Radio Okapi vous propose une semaine de couverture exceptionnelle pour commémorer cet événement historique. Au menu, des reportages captivants, des témoignages exclusifs de ceux qui ont vécu ces moments historiques.
Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique.
Du 30 juin au 6 juillet, suivez ce programme spécial sur nos ondes et nos plateformes en ligne. Radio Okapi donne la parole à ceux qui ont façonné le passé de la RDC et à ceux qui continuent de construire son avenir. Vive l'indépendance de la RDC.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui de l'ex-État, de l'examen, la grande session de l'examen d'État qui se clôture aujourd'hui. Vous savez, cette grande édition de l'examen d'État édition 2023-2024 se clôture aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Le premier jour, l'examen a porté sur la culture générale. Le deuxième jour, il y a le cours d'option. Le troisième jour, les sciences, etc. Alors comment se sont déroulées ces épreuves sur l'ensemble du territoire national? On signale qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Dans la ville de Beni, par exemple, plus de 5000 candidats ont passé ces épreuves de fin d'études secondaires dans 15 centres. Nous avons en ligne Monsieur Jacques Tati, voilà, ou moi Koupemba, il est coordonnateur national de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo. Jacques Tati, moi Koupemba, bonjour.
Bonjour Jordi.
Bienvenue.
Et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission. Quel bilan on peut aujourd'hui dresser de cette grande session de l'examen d'État édition 2023-2024?
Merci pour la question. Je crois que le monitoring que j'ai sur toute l'étendue de la République me fait savoir que dans l'ensemble, l'examen s'est bien passé. Et même s'il y a quelques incidents comme ça sporadiques qui ne manquent pas, mais en général, l'examen s'est bien déroulé. Je crois peut-être que c'est aussi avec la dynamique du nouveau gouvernement qui a tout voulu vraiment à ce que tout se passe sobrement et en respectant les normes. Donc, dans l'ensemble, tout s'est bien passé, qui se clôture aujourd'hui. Mais néanmoins, il faut signaler que les incidents ne manquent pas. Par exemple, dans certains centres, certains préfets ont demandé les frais de participation un peu plus par rapport à ce qui a été demandé par l'État. Mais en général, il n'y a pas eu vraiment de grands incidents majeurs.
Voilà, le premier jour, l'examen a porté sur la culture générale. Est-ce que vous avez eu les réactions des élèves par rapport aux questions qui étaient posées sur la culture générale?
Oui, j'ai questionné quand même quelques élèves sur place ici à Kinshasa pour avoir un peu leur point de vue sur la culture générale. En tout cas, certains d'entre eux m'ont dit qu'ils se sont quand même retrouvés dans des questions qu'on a pu poser. Et c'était quand même très intéressant. Et pour eux, ils n'ont pas eu assez de difficultés parce que c'était généralement les matières qu'ils ont repris dans leur salle de classe, mais aussi grâce aux médias et qu'ils ont pu suivre à gauche à droite, ils ont pu retenir certaines dates, par exemple, certains événements majeurs et qui sont revenus dans cet examen. Cependant, par exemple, pour l'examen des philosophies, certains m'ont dit qu'ils ne se sont pas pu retrouver dans cet examen parce que, bon, peut-être qu'ils n'ont pas pu finir le programme ou ils n'ont pas abordé tel ou tel chapitre. Alors, ils se sont retrouvés avec des matières qu'ils n'ont pas pu comprendre. C'est ici d'ailleurs pour moi l'occasion déjà de dire que, par exemple, pour cet examen de philosophie, j'aurais souhaité que qu'on change complètement la manière de poser cet examen. Ce que nous sommes habitués à faire, à mon avis, ne reflète plus la réalité des impératifs de notre pays actuellement.
Comment ça devait se passer? Oui. Qu'est-ce que vous proposez à la place?
Oui, je propose par exemple que pour l'examen des philosophies, ça soit au fait une très grande dissertation sur des questions majeures d'actualité du pays. Donc ça sera une forme de grande dissertation orale où les enfants doivent disserter exactement sur cette question. Et ça donnera aussi l'occasion d'aider aux enfants de maîtriser un peu l'oral, pas l'oral, mais surtout l'écrit, parce qu'on se plaint actuellement que les enfants qui terminent le cycle secondaire ne savent pas écrire. Beaucoup ne savent pas écrire, beaucoup écrivent avec beaucoup de fautes. Alors si on pouvait faire passer un examen de philosophie comme ça, comme étant un oral sur une question d'actualité ou plusieurs questions d'actualité que l'enfant choisirait lui-même, ça serait pour moi vraiment très intéressant.
Bien. Et le deuxième jour, l'examen a porté, je pense que c'était sur les cours de base.
Tout à fait. Bon, les cours de base, c'est vrai que ça soit, par exemple, pour les sciences, les mathématiques, pour les sections pédagogie, les humanités pédagogiques, par exemple, les cours de psychologie et la pédagogie. Bon, et dans l'ensemble, beaucoup d'élèves ont dit que pour les sciences, ils se sont retrouvés, pour ceux qui ont terminé le programme, ceux qui n'ont pas pu terminer, par exemple, un élève m'a dit qu'il n'a pas pu finir toutes les questions des mathématiques analyse parce que certaines questions de l'intégrale, il n'arrivait pas à les résoudre et que dans leur école, on n'a pas pu vraiment terminer le programme en ce sens-là. Donc, il y a lieu quand même aussi de rappeler surtout la supervision des inspecteurs pour que quand ils descendent dans les écoles, il essaye de vérifier exactement si les enseignants ont atteint 90% du programme requis pour X, Y cours pour permettre aux élèves d'être vraiment au point avec ce qui va se passer. Bon, il faut aussi voir cet examen qui, au fait, reprend toutes les matières des préscolaires jusqu'en fin du cycle. Il faudrait quand même qu'on étende quand même cette manière de... Surtout les examinateurs voient la taxonomie de Bloom pour essayer de bien agencer leurs questions et que ça ne soit pas vraiment seulement un examen comme on est habitué tel a réussi, tel n'a pas réussi, et qu'on essaie de voir tous ces éléments qui aideraient les élèves après à se découvrir, ils sont forts, ils sont faibles dans tel axe, dans tel axe.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Jérémy Do nous appelle depuis Bandundouville. Bonjour. Jérémy Do, vous êtes à Bandundouville. Jerry, bonjour.
Oui, allô.
Bonjour.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'examen d'État, édition 2023-2024?
Merci beaucoup. Bonjour à l'invité. Bonjour d'abord à vous. Je ne sais pas ce que je peux dire. D'abord, je félicite cette session parce que ici, dans notre ville de Bandundu, ça s'est bien passé et les enfants continuent toujours à travailler. Et avec la nouvelle citoyenneté qu'on a adoptée, telle que lorsque nous étions dans le 6e, 5e, on ne faisait pas les examens de cette façon où on termine l'examen après un mois, deux mois, direct on publie les résultats. Ça, c'est d'abord une innovation à féliciter. Mais quand je suis l'invité, il dit là, c'est que l'invité est en train de dire, c'est sûr. Vous savez, je dis, les enfants d'aujourd'hui, d'autres ne réussissent pas pourquoi. Peut-être ils ont leurs choses à faire là, même pour écrire leur nom dans l'item, il ne convient pas à écrire son nom. Là, si vous voyez l'école donne néant, oh, le préfet, ceci, cela, mais c'est pour ce que je demande à l'invité, il faut qu'il adapte d'abord un test avant de faire l'examen d'État pour les enfants. Donc, on fait d'abord un test pour les enfants, de remplir d'abord la modalité qu'on remplit les items, leur nom, poste, nom, le nom de l'institut, tout ça, parce qu'il n'aura pas de dérapage. Mais, tel que qu'ils sont en train de faire, tel que l'invité est en train de dire, c'est vrai ça. Mais à la fin, si vous allez voir qu'il y a des néants, des types par-ci, par-là, la faute incombe toujours au préfet, la faute incombe toujours à l'institut. Donc, or, ce n'est pas l'institut, c'est les enfants d'abord. Donc, ce que je peux demander, il passe d'abord avant de travailler l'examen d'État. On rassemble tous les élèves, on leur montre comment remplir, et c'est comme un exercice. On donne ça aux enfants pour travailler, puisqu'il aura un bon résultat. Merci beaucoup. C'est Jérémy de Depuis Bandundouville.
Merci, Jerry. Jacques Tati, à vous la parole.
Oui, donc je pense que l'auditeur qui vient de prendre la parole a pu avoir raison parce que nous connaissons la réalité de notre pays. Dans certains coins de la République, les élèves n'étudient pas, hein, ou ils étudient comme ça à moitié, ou bien ils n'ont pas assez de professeurs qualifiés pour leur assurer les cours. Ou bien encore, dans les classes montantes, on a fait passer n'importe qui pour garder les fixes. Et tout ça, ça transpire au niveau de la quatrième humanité lorsque il faut passer ces épreuves. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des élèves qui ne connaissent pas très bien écrire les choses. Parfois, dans certaines écoles, on n'a pas pu entraîner les enfants à bien remplir leur cahier item, et ça, ça pose problème. Donc, vous voyez, et ça, ce sont des aléas, ou bien la seconde phase du système. Il faudrait dire que le gouvernement fait déjà beaucoup en ce sens pour une organisation beaucoup un peu plus naturelle, mais cela ne signifie pas que le pari est gagné. Il faut continuer, surtout dans les écoles où on n'étudie pas, les infrastructures posent problème. Dans des régions où on a pu déplacer les écoles, je pense aux amis de Tanganyika, ou par exemple où les écoles, certaines écoles ont été inondées dans l'eau et on a pu déplacer les élèves qui n'étudiaient pratiquement pas. Donc vous voyez tous ces éléments-là, il faut mettre ça vraiment à côté et les analyser de près. Pour qu'on essaye de donner solution. Je crois aussi que les inspecteurs principaux provinciaux qui sont en train de superviser les examens d'État font porter tout ce qu'il y a comme problème et ces questions doivent être vraiment étudiées au niveau national pour que tant soit pire, on essaye de donner des réponses à ça. Parce que d'une manière ou d'une autre, les enfants qui terminent comme ça et quand ils ne savent pas écrire leur nom, quand ils ne savent pas écrire une phrase, quand ils ne savent pas remplir un qualité, vous ne pouvez pas attendre à des néants. Si, il faut voir quelle qualité ces jeunes seront demain. Voilà pourquoi je reviens pour dire, comme je t'ai dit au début, qu'il faut que l'examen de philosophie, par exemple, devienne un moral de dissertation pour que les enfants soient à mesure d'écrire. Si on pouvait les entraîner beaucoup de fois à écrire, à comprendre, je crois que c'est cette question-là est résolue. Donc, on ne dit pas que le pari est gagné, il faut continuer à travailler davantage parce que ce sont des épreuves certificatives qui, à la fin, donneront une direction à ces enfants. Et là aussi, ces enfants sont qualitativement moins formés. Vous imaginez quel genre de cadre congolais que nous aurons demain dans l'administration.
Bien. Est-ce qu'on peut dire que pendant cette session, il n'y a pas eu beaucoup de cas de tricherie et de fraude, comme c'est le cas les années précédentes?
Bon, en tout cas, le monitoring de terrain, on n'a pas vraiment ciblé. J'ai vu quand même que dans certains coins, certaines écoles où les enfants ont pu faire sortir les cahiers d'items pour que ça soit traité. Les cas de tricherie ne manquent pas. Et ça c'est évident. Et aussi, il faut penser ce que nous n'avons pas vu. Par exemple, ce qui se passe dans le réseau avec... les WhatsApp, il faut entrer, il faut interchanger. Certainement, ça ne manque pas. Je crois que le pourcentage est non négligeable, est moins négligeable. Mais cela signifie aussi qu'on doit toujours faire en sorte qu'on essaye d'éviter ça davantage. Parce que si les enfants prennent l'allure de faire sortir les examens, trichent les examens, à quoi bon on organise ces examens? Il faudrait que les élèves, mais aussi leurs encadreurs, que ce soit le professeur, le préfet d'études qui, dans certains milieux, demandent aux enfants ce qu'on appelle l'organisation matérielle pour que les examens soient traités ailleurs, tous ces gens-là doivent être traqués afin d'éradiquer cette situation. Je sais que c'est difficile, mais on peut quand même, avec une ferme volonté, arriver à éradiquer ou à diminuer sensiblement les cas de tricherie et tous les autres cas que nous connaissons.
Bien, donc pour vous, dans l'ensemble, on peut dire que cette session de l'examen d'État s'est bien déroulée sans incident majeur.
Oui, je pourrais dire à mon sens que l'examen jusque-là s'est bien passé. Et les cas, les incidents ne manquent pas. Ça, il faut qu'on se les dise. Les incidents ne manquent pas. Les cas de tricherie, les cas de préfets qui ont demandé plus d'argent, ou bien les inspecteurs qui sont les chefs de centre qui demandent plus d'argent par rapport à ce qui est demandé. Ces incidents sont là. Et je crois que les données sont remontées à qui des droits, mais en général, les examens c'est bien déroulé. D'ailleurs, moi, j'en félicite parce que si pour cette édition, nous avons 92 662 000 candidats, il y a quand même 42% des filles qui sont aujourd'hui... élèves en quatrième qui ont fait ces examens d'État. Vous voyez le pourcentage des 42%, c'est quand même intéressant. Mmh. Et si on peut encore remonter davantage pour qu'on ait 50%, 50-50, 50 garçons, 50 filles, ça sera très intéressant. Donc, nous encourageons les gouvernements à faire mieux. Je crois que la dynamique que nous sommes en train de voir actuellement avec le nouveau gouvernement laisse entrevoir qu'il peut y avoir des choses. Mais il faut travailler, il ne faut pas croiser les bras, il faut dire que oui, ça y est, nous avons réussi. Donc, il y a encore du travail à faire et nous encourageons ce travail et nous souhaitons que ça s'améliore davantage.
Bien, on retient qu'il y a eu une participation de 968 304 finalistes, dont plus de 42% de filles. Pierron Pagna, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la grande session de l'examen d'État?
Oui, Je vous dis que c'est une déception pour l'avenir que nous voyons, que le pays prépare. Bon, je pense que c'est alarmant. Même la façon dont l'invité est en train de nous donner des statistiques, il nous donne ces statistiques selon le nombre de participants. Mais quand vous voyez le nombre de qualités de ceux qui ont présenté cet examen-là, je vous dis que nous plairons. Là, je suis dans mon lieu de travail où je vois les élèves qui ont terminé leurs examens et qui passent. La façon dont ils célèbrent, la façon dont ils se sont habillés, le mini-jupe qu'ils ont, je me demande, est-ce qu'ils sortent directement de centre ou bien ils étaient déjà à la maison, ils ont mis cet uniforme que nous voyons ici. Je me demande comment ils ont su faire entrer ces enfants-là dans des mini-jupes comme ça. Ça me dépasse. Ça, c'est quelque chose que prochainement, les inspecteurs doivent travailler pour ça. Deuxièmement, j'étais à côté, je sors pour acheter les unités. Enfin, d'entrer en contact avec vous. J'ai vu quelqu'un d'autre qui vient prenant, on m'a donné des réponses, des questionnaires pour notre frère. Nous devons chercher le préfet. Je suis venu payer le méga. Donc, il y a plus de préfets des écoles qui travaillent pour les enfants. Et les enfants là sont, ils ont déjà payé le superviseur. Le superviseur, on peut les appeler comme
les
ça.
Les surveillants.
Ils ont déjà payé leur somme là-bas et les enfants ont des réponses venant d'ailleurs, pas de leur tête. Ça se voit partout. C'est un aspect que les inspecteurs doivent aussi travailler. Et ma question que je voulais poser à l'invité pour ne pas être trop long. Cher invité, nous avons présenté ces examens ici. Et à l'université où les enfants vont partir, il y a déjà un autre système. Ils ont révolutionné les choses selon ce que la réalité de notre pays nous oblige. N'est-ce pas, vous ne pouvez pas aussi voir la façon dont on pose des questionnaires? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que le système qui est déjà archaïque, comme l'université, il y a déjà un changement? On ne peut pas aussi changer, revoir aussi d'autres cours qui doivent être enseignés de matières qui ne correspondent plus avec l'actualité actuelle. C'est ce que je voulais poser à l'invité. Je vous remercie.
Merci pour toutes ces questions. Pierrot Mpagna, de Lubumbashi. Monsieur Jacques Tati Mwakupemba, à vous la parole.
Alors, merci. Je prends d'abord la deuxième question. C'est vrai, la stratégie sectorielle de l'éducation et des formations 2016-2025 insiste sur la question de la qualité. Et dans cette question de la qualité, il est question d'adapter notre système éducatif avec tout ce qu'il y a comme emploi et tout et consorts. Je suis d'accord que il faut revisiter certains cours pour voir si ces cours sont encore pertinents pour qu'ils soient enseignés. Je suis aussi d'accord que les examens d'État depuis 67 jusqu'à aujourd'hui, même si on a fait des études là-dessus, il serait intéressant qu'on s'assoie pour revoir, pour encore réfléchir davantage si les examens d'État dans sa formule actuelle répond exactement aux besoins de ce que nous avons sur place et sur terrain. Donc, la stratégie déjà prévoit ces éléments-là et je crois que l'autorité en place connaît la situation et il aménage un plan d'effort pour que nous parvenions vraiment à changer la donne, pour que nous atteignions cet axe parmi les trois axes, l'axe qualité. Enfin, quand même, que quand un enfant atteint la quatrième année des humanités, après tout un processus, un cursus, un continuum de 12 ans, on se dit qu'il a quand même assez de compétences, des capacités pour être une personne utile à la société. Donc, nous ne refusons pas aujourd'hui à ce qu'on fasse une sorte de remise en question de notre système éducatif de l'examen d'État. Alors, pour répondre à la première question, c'est vrai, je l'ai déjà mentionné, c'est que je ne pourrais pas dire que totalement les examens d'État restent une réussite totale insatisfaisante. Non, il y a des cas ci et là que nous avons déplorés dans les monitorings à gauche à droite. Je l'ai souligné ici. Il y a eu des cas de tricherie, il y a eu des cas de réseaux sociaux qu'on fait sortir des examens. Mais aussi, il y a tous ces cas-là qu'on fait allusion, la tenue moins ludique de certains élèves, de certaines filles qui portent après, pendant les examens. Ce sont des choses à déplorer. Je crois que ce sont des réalités que les chefs de centre doivent avoir, de voir sur place, mais aussi la responsabilité des préfets d'insister auprès des enfants qu'il ne faut pas ça. Ça, je suis d'accord. Mm-hmm. Je sais aussi que parfois les enfants, après ces épreuves, sortent un peu pour essayer de danser, de jouer, de dire que ouf, nous avons terminé les cycles, mais il faudrait tous ces éléments-là, qu'on coordonne ça, qu'on surveille ça de près, afin que nous ne sortions pas d'un intervalle de la rationalité des paramètres que nous voulons là-bas. Donc voilà un peu ce que je peux répondre à notre auditeur.
Merci Jacques Tati Mwakupemba. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO, UNTC. Excellente journée et à la prochaine.
Merci Jordi et à la prochaine.
Bien, on va accueillir un auditeur en ligne. Venance de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour à tout le monde.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le déroulement de la grande session de l'examen d'État?
Certainement, aujourd'hui, j'ai un grand regret par rapport au déroulement de l'examen d'État. D'abord, ma première question, c'est de savoir...
Merci de vous éloigner de votre radio, ou vous pouvez réduire le volume de la radio parce que ça, il y a un effet retour désagréable.
Oui, certainement. Je voulais tout simplement demander... Comment un élève peut avoir l'examen avant 3 jours du déroulement des examens et la session des examens? Et puis, deuxièmement, ce que je voulais savoir, comment un élève a étudié depuis l'école primaire 6 ans, 6 ans de l'humanité, et il arrive en 6e pour présenter ses examens, il ne connaît absolument rien. Qu'est-ce qui se passe sur l'examen? Il ne connaît absolument rien. Comment écrire, comment rédiger, comment faire tout ce qu'il faut pour un élève. Alors, et je vais me demander, après cette génération qui nous a formés, la génération prochaine, quel sera le résultat de ce dernier?
Bien, donc vous avez parlé d'abord des enfants qui étaient en possession des items 3 jours avant l'examen.
Certainement.
Voilà. Et puis d'autres élèves qui ne savent même pas écrire leur nom. Alors vous posez la question de savoir si qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces jours de l'examen. Merci beaucoup d'avoir appelé de Kinshasa. On va accueillir dans quelques instants Serge Bondedi qui est secrétaire général à l'ONG IMAE. Serge Bondedi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Bien. Quel bilan nous pouvons dresser aujourd'hui de ces 4 jours de la grande session de l'examen d'État édition 2023-2024?
Le bilan, d'abord du point de vue, si on fait d'emblée une analyse sur les forces, faiblesses et opportunités, je crois que la première force, c'est la tenue de cette session ordinaire de l'examen d'État sur l'ensemble de la République, un pays continent avec des difficultés d'accès énormes, on a retenu que le colisage avait eu lieu, le convoyement, l'ouverture des centres, l'organisation des épreuves, ça c'était un point fort parce que l'examen d'État constitue aussi un élément qui démontre ou qui cimente davantage l'unité nationale. Deuxièmement, en tout cas jusqu'au moment où nous parlons, à travers les différents secrétariats provinciaux de Imaye, beaucoup de membres sont déployés sur terrain, y compris moi-même qui vous parle, je suis dans les Kwilu. On n'a pas, jusqu'à preuve du contraire, documenté un incident majeur qui porte atteinte à l'organisation des épreuves dans un coin de la République, sauf éléments contraires qui échapperaient à notre information. Et ensuite, ce qu'on peut aussi dire comme un point peut-être positif, c'est la rapidité, l'instantanéité avec lesquelles l'inspection a pu quand même rencontrer certains problèmes qui se sont soulevés ça et là en termes de faiblesses peut-être organisationnelles. En ce qui concerne le point faible, je reviens, c'est sûr, je crois que c'est un défi, c'est un problème qu'on a soulevé, qui requiert des réparations dans l'avenir, et nous sommes disposés à proposer des solutions alternatives. C'est sur le critère, le choix de la désignation des surveillants, surtout parce qu'on a documenté, par exemple, au niveau des autres provinces, notamment dans les Hauts-de-Mami, l'imposition des surveillants par et supervisés par les gouverneurs, par l'Assemblée provinciale. On a documenté au niveau du Congo central l'imposition des surveillants venant de la Force du Progrès. La même chose au niveau de Kinshasa, où vous avez certaines provinces éducationnelles qui se sont vues envahies par des fortes délégations se présentant comme étant de recommander du pseudo maison civile du chef de l'État. Autant à Tchopo, effectivement, il y a aussi un groupe de personnes qui se sont présentées comme étant de l'IDPS et qui sont obligées d'être surveillants. Ça, c'était un problème majeur qu'on a soulevé, qui ne cesse de déranger le système et qui nécessite vraiment des améliorations parce que des surveillants qui n'ont pas de profil, qui n'ont pas qualité, favorisent la crue de la fraude au niveau des centres de passation. C'est qu'on a aussi...
Un instant, par rapport aux surveillants, Serge Bondé dit, par rapport aux surveillants, la loi stipule que les surveillants doivent être recrutés parmi les enseignants de l'école primaire.
Effectivement, les enseignants de l'école primaire, il y avait une brèche, vu que le secteur est géré en mode partenarial, il y a une instruction de l'inspecteur général chef des corps, donnée notamment aux provinciaux, aux comités provinciaux de l'examen d'État, d'ouvrir un tout petit peu la porte aux partenaires éducatifs. Ce sont là, en tout cas, en premier lieu, ce sont les enseignants, et en deuxième lieu, un petit nombre de partenaires éducatifs, parce qu'il y a une instruction de l'inspecteur général qui existe. Mais malheureusement, le secteur éducatif se voit envahi par les politiques, parce que les gens sont à la recherche des 50 000 francs de frais qu'on paye, mais pas seulement ça, parce que s'il fallait seulement avoir les 50 000 francs, je ne penserais pas qu'un cousin, un frère, une sœur d'un ministre provincial peut chercher à être dans un centre. Mais c'est plutôt parce qu'ils savent qu'ils font des sollicitations aux enfants, leur disant, par exemple, que si vous cotisez autant, et par rapport à ça, j'ai reçu un rapport au niveau de Pueto, où un chef de centre a pris la poudre des scampettes hier, parce que l'ensemble des surveillants se sont ligués contre lui lorsque ils ont appris que les élèves ont eu à cotiser pour lui. Alors il a fallu être lynché hier, ça s'est passé à Pueto, et ce chef de centre a pris la poudre la poudre d'escampette.
Et pourquoi, donc, et pourquoi les enfants ont cotisé pour lui? Pourquoi les enfants,
parce
les élèves ont cotisé?
Pour avoir des facilitations. Moi, les élèves cotisent parce que c'est lui qui est le chef des centres, c'est lui qui est, comme on dit dans le langage habituel, dans un centre, après Dieu, c'est le chef des centres, ça c'est tout à fait normal. Mais dès lors que le chef en question est véreux, il n'est pas honnête, il donne des instructions et il passe par certains, peut-être de ses surveillants, plus poussants, donc à inviter les enfants aux candidats à cotiser quelque chose et pour faire ce qu'on dit à l'Indala, Babumamisu, Batangamisu, afin d'avoir certaines facilités en termes de collaboration. Mais c'est dangereux parce que au niveau de l'inspection générale, il faut noter qu'il y a eu beaucoup de renforcements en termes de mesures de lutte contre la fraude. Il y a des 16 examens qui ont jusqu'à 30 batteries, 30 séries. Donc c'est vraiment difficile que dans une salle, que deux élèves aient un même examen, bien que au premier vu, ça donne l'impression d'être un même examen. Il y a des 16 épreuves qui ont jusqu'à, selon les informations reçues, jusqu'à 30 séries de questionnaires. Ça c'est de un et de deux. Bon, apparemment cette année on n'a pas encore l'information. Bon, parce que aussi il y a eu des gens qui se sont plaints, mais les années passées on avait apprécié ce que l'inspecteur général Odia avait instauré, le changement des chefs de centre durant tous les 4 jours. Bon, malheureusement il y a eu des implications, notamment des implications budgétaires et puis l'accessibilité surtout dans les Congo profonds qui parfois pose problème. Mais je crois que c'est une expérience qu'il faut davantage revenir là-dessus pour casser l'élan de la fraude qui est devenue endémique. Un peu.
Bien. Serge Bondé dit aujourd'hui, c'est les derniers jours. Généralement, l'épreuve porte sur quelle matière le dernier jour?
Le dernier jour, c'est la culture générale. C'est la culture générale le dernier jour.
Ben je pense que la culture générale, je pense que c'était le premier jour. Aujourd'hui, ça doit être peut-être autre chose. Alors une autre question.
Les langues.
Bien, c'est plutôt. Il termine avec les langues aujourd'hui. Bien. Alors qu'est-ce qui fait que après l'examen, les enfants se méconduisent? Les filles, quelqu'un a dit tout à l'heure, il a vu les filles avec des mini-jupes, ils déchirent les chemises et puis bon, ils font des spectacles désolants. Et les soirs, on va les retrouver dans les bistrots, etc. Est-ce qu'il y a eu des mesures pour éviter tous ces débordements?
Oui, ça c'est une question complexe et transversale. Hein, il faut l'avouer, c'est d'abord une grande part de responsabilité des parents parce que je ne vois pas un enfant bien éduqué au niveau de sa famille, bien qu'il y a l'influence de la société, de l'éducation du fils, mais du moins s'il a une dose d'éducation morale reçue de ses parents, qu'il puisse s'adonner à ce genre de pratiques. Ça, c'est de un. Et de deux, vous allez remarquer avec moi que les comportements des enfants en dehors des centres de prestation ou des établissements d'enseignement, ces comportements relèvent, donc pour le suivre, relève de ce qui gère l'ordre public à travers la République. Ici, je vois en premier lieu le vice-premier ministre et ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité. Et je crois que ce matin, on a apprécié le message diffusé par l'inspecteur général, appelant notamment tous les superviseurs nationaux comme provinciaux qui sont sur l'ensemble du territoire, de rappeler aux finalistes un certain nombre de comportements. Il faut suivre. Nous aussi, comme partenaires, nous avons fait de notre part pour interpeller le VPN de l'intérieur, parce que c'est à lui qui revient cette charge du maintien de l'ordre public, pour que ce dernier rappelle à toute la chaîne de commandement en matière de maintien de l'ordre public pour veiller, mais aussi prévenir les dérapages, parce que nous connaissons souvent comment opèrent certains de nos policiers, et si c'est avec brutalité, on risque de compter beaucoup de cas de bavure policière. Donc ici, et on a vu le commandant de la ville de Kinshasa, le général Blaise, aussi fait un message. J'ai aussi reçu de la part de mes provinciaux du Nord Kivu le message écrit du commandant, du général gouverneur de la province du Nord Kivu. Si d'autres gouverneurs font autant, ça sera une bonne chose, mais les parents doivent le faire aussi. Je crois que les superviseurs ont fait passer le message. Et ici, je profite de l'occasion de votre micro pour en appeler à la responsabilité des élèves. Mais ce qui est vrai, il est difficile d'un enfant qui a eu un comportement droit durant tout le cursus qu'on puisse le changer au niveau de la quatrième année des humanités. Mais c'est à ce moment-là que la force de la loi doit intervenir, donc la répression, mais comme ce sont des finalistes, de manière méthodique pour éviter tous ces cas qu'on a de comportements extravagants. L'accès dans des débits de boissons, il faut que la police surveille, les écrits sur les uniformes, tout ce qui est comme comportement déshonorant, ça doit être évité au maximum.
Bien, on va accueillir Thomas depuis Bounia. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Rebonjour et bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs
de la
radio.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la. Au déroulement de la grande session de l'examen d'État.
Merci pour la parole. L'examen d'État, ça a été bien lancé, bel et bien chez moi ici en Ituri. Je prends le cas de là où je suis ici, c'est Ituri 1, où il y a eu, lors de la SUMA, il y avait au moins 15 000 finalistes, si je ne me trompe pas, qui étaient attendus pour ces épreuves. Comme les invités sont là et ils ont dit à ceux qui les problèmes ne peuvent pas quand même marquer, mais de façon générale jusqu'au quatrième jour ici en Ituri ça va quand même. Mais il y a un sérieux problème, il y a ce point là où il y a quand même les inégalités à ce qui concerne les frais à payer, parce que si vous voyez la province du Nord Kivu, quand même qu'il y a les sécurités, nous aussi à Ituri on a de les sécurités, mais la province du Nord Kivu, les finalistes n'ont rien payé à ce qui concerne par exemple les frais à payer à de participation à l'examen d'État. Ce cas n'est pas ce cas à Ituri ici. À Ituri ici, même si on est à les sécurités, mais les enfants, les parents ont payé les frais de participation, quelque part aussi il y a cette inégalité là. Nous tous nous sommes en insécurité, la province du Nord Kivu mais aussi l'Ituri, mais pourquoi une catégorie ou la seule province est épargnée de payer les frais, mais nous on paye. Vous voyez quelque part là le gouvernement, la balance n'a pas été vraiment, la balance n'a pas été haute, parce que nous aussi on est en insécurité, on devait toutefois pas payer ces frais là. Si Nord Kivu n'a pas pu payer, les enfants de l'Ituri, par exemple, à Njougou, là où il y a les sécurités, et aussi, on devait faire la même chose à ces gens-là. Mais je suis principalement ici, au centre-ville, je circule là. C'est la même attitude qu'un des intervenants y a soulevé. Mm-hmm. Parce que je vois aussi, il y a certaines filles qui sont en train de déchirer des habits par-ci, par-là. De fait, comme si les résultats étaient déjà disponibles. Alors que ça, ce n'est que le début. On attend les résultats proprement dit. Ça, c'est, ils ont terminé l'épreuve. Mais la grande question, c'est quand est-ce que tu vas réussir ou pas? Mais maintenant, là, on commence à voir des attitudes là qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout bonne. Mais quant à ça, la justice, la police doit interpeller ces gens-là. On doit correctement les sanctionner pour éviter de troubler l'ordre public.
D'accord.
C'est fait ça.
Merci Thomas.
Ma contribution.
Merci Thomas. Serge Bondé dit à vous la parole.
Oui, concernant le cas de disparité en termes de fixation de frais, bon, et ce qu'il faut d'abord dire ici, ça relève des pouvoirs de la compétence des provinces. On a toujours souhaité la publication du tableau synoptique de frais fixés à travers le pays. Je crois que 6 ans après qu'on a commencé à demander cet exercice, on a vu notre soif être étanchée cette année. Le service de communication du ministère ont quand même rendu public des tableaux synoptiques sur la fixation des frais de session ordinaire. Il y a lieu de dire qu'il y a eu quand même assez de confusion de la part des communautés qui pensaient que c'était le frais de l'ensemble des épreuves de l'examen d'État, mais il fallait quand même une précision puisse s'en suivre pour dire aux uns aux autres que les frais qui ont fait l'objet de publication dans ce tableau synoptique étaient et sont plutôt de seulement la session ordinaire. Alors, il est vrai, suite à l'observation de ces tableaux, on constate ça et là le variation d'une province par rapport à une autre, effectivement, parce que c'est chaque province qui fixe conformément aux réalités locales. Alors, notre ami parle du Nord Kivu et Ituri, qui sont toutes deux provinces sous état de siège, dans une situation humanitaire assez alarmante. Il faut dire que concernant le Nord Kivu, il y a eu un plébiscite qui a été fait par les élus de la place à l'époque, qui étaient venus voir le ministre qui est parti, et un mécanisme a été fait qui a abouti à cette participation gratuite avec comme argument les taux élevés des enfants en situation de déplacement en conflit armé. Mais aussi, nous, ça nous a intéressé parce que ça nous a quand même montré que l'État peut intervenir. Ça, c'est bien en termes de l'éducation en situation d'urgence. L'éducation cannot wait, ça ne peut pas attendre. Et puis, en termes de facilité qu'il faut faire à des groupes vulnérables de l'éducation. Mais du moins, il y a un aspect qui nous interroge, qui davantage nous pousse à lancer à haute voix la réflexion. L'examen d'État qui se passe quand même plus ou moins dans toutes ces phases, il est assuré, mais c'est sur forme de financement des parents. Est-ce que l'État ne peut pas, à un certain moment, se sentir un peu pointé du doigt, parce que quand nous voyons les NAFEP, qui, ça va faire 3 ans maintenant, ça échappe au financement de l'État parce que l'État ne donne presque rien. Ce sont les parents suite au paiement du TENASOSP. Mais pourquoi là où l'État doit intervenir, l'État n'intervient pas convenablement, attend avec efficience et efficacité, mais là où le privé intervient en temps de financement, tout se passe quand même correctement. Tandis que paradoxalement, on parle de puits qu'on aurait payé à l'unité $300,000, ainsi de suite. Bon, mais du moins, ça soulève davantage le débat sur la question du financement. Et il y a aussi lieu de quand même dire ici et de condamner toutes les mauvaises pratiques qu'il y a autour des frais. Vous avez à Kinshasa, on a dénoncé, heureusement ça a été réparé au niveau de l'UPEN, une école privée, La Rosette, qui avait demandé d'abord $100 comme frais, ensuite un autre $100 avant la remise des macarons. Quand on a dénoncé, la situation a été réparée. Et au moment où nous parlons, il y a des élèves du Grand Collège Moderne dans la commune de Selembao qui sont menacés de voir leur E13. Bon, ça c'est de l'arnaque, parce que c'est de l'escroquerie. S'ils ne donnaient pas $150 comme appui et frais d'accompagnement à l'examen d'État, ils échoueront à leur examen d'État. Il y a autour, effectivement, de l'examen d'État, autant de pratiques qui nécessitent les efforts de l'État ensemble avec le partenaire, mais ça peut être mieux arrangé si tous les gestionnaires à des différents niveaux de gouvernance éducative reconnaissent l'apport qu'il y a, ou soit que les partenaires peuvent apporter pour l'avancement de l'agenda de l'éducation. Toujours au sujet de ces pratiques, on a aussi documenté au niveau de Imaye que dans certaines provinces éducationnelles, le choix des chefs de centre qui sont monnayés avec de l'argent, même le choix de certains centres pour que l'école soit retenue comme centre, il y a certains qui ont proposé des sollicitations financières. Tout ça, ce sont des pratiques qui sont à condamner. Mais il y a aussi un point positif qu'on a noté, c'est l'évolution qu'il y a avec les macarons des élèves, où, contrairement aux années passées, on a vu que maintenant, les macarons disposent d'un QR code, les macarons disposent d'un ensemble d'informations très utiles pour identifier les enfants, mais cependant, il y a ces responsables provinciaux qui ne sont pas vraiment en phase sur l'utilisation, sur les remplissages, même certains intervenants.
Oui, Serge Bondedi.
Chaque jour de tentation.
Serge Bondedi, on peut dire que cette fois-ci, il y a eu moins de fuites des items, il n'y a pas eu assez de cas de fraude, des mercenaires et autres pratiques, la tricherie cette année.
C'est difficile de dire qu'il n'y en a pas eu, parce que ça se perfectionne de plus en plus. Hein. Maintenant, pour avoir un mercenaire dans une session, il faut commencer par l'inscrire comme un autodidacte. C'est par là que ça passe. Voilà pourquoi, pour juguler cette question, il y a aussi intérêt d'agir au niveau du contrôle CC7. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a début de CC7, nous passons le temps pour dire qu'il faut renforcer le mécanisme de contrôle des dossiers de scolarité des élèves. En ce qui concerne le foot des items, il est vrai, en tout cas jusque-là, nous, au niveau du Maillé, on n'a pas encore documenté de cas de fuite des items. Mais du moins, les laboratoires opèrent. Concernant le fait des labos, ça opère. Or, pour qu'un labo opère, il faut qu'il y ait fuite des items. Alors, les gens sont devenus aussi très méthodique dans ces pratiques contre nature, dans ces pratiques contre éthique, c'est ce que je voulais dire. Il faut davantage en français. Et laissez-moi vous dire que on a aussi, pour nous en tout cas, c'est pour la première fois qu'on a un ordre de mission qui reconnaît le monitoring des écoles à Mombongoté au niveau national. Ça, c'est quand même une avancée et détail, parce que c'est au niveau national qu'on nous accorde ce pouvoir de monitorer sur la campagne pendant la session ordinaire. Nous pensons qu'au niveau des provinces, ça doit aussi être le cas, parce que la question de la fraude, c'est une question d'intérêt national. Ce n'est pas seulement du ministère, ni des inspecteurs, ni moins des élèves. C'est une question qui a des ramifications dans notre société et qui implique tout le monde et nécessite les efforts de tous.
Bien, comme c'est le dernier jour de la session ordinaire de l'examen d'État, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir l'ordre public après les examens, que les enfants ne s'adonnent pas à la débauche ou qu'ils fassent des spectacles désolants sur les grandes artères?
Oui, d'abord, en tout cas là où moi je suis passé dans des centres, comme superviseur national, j'ai fait passer ce message. J'ai dit aux élèves que l'examen d'État n'est qu'une étape et les autres viendront. Alors il ne faut pas gâcher le reste de sa vie à cause d'une première qui est beaucoup aussi importante. Il faut qu'ils évitent l'alcool. Il faut qu'ils évitent des sollicitations trompeuses. Il ne faut pas qu'ils s'exposent à la drogue, au sexe, à la débauche, aux actes de vandalisme, à la violence. Et je crois la tribune que même la radio Capi offre à ces jours est très importante, et de veiller sur l'éducation et l'encadrement des enfants.
Bien.
Je sais que les enfants, pour la plupart, c'est interdit de se procurer au centre avec un téléphone, mais aux parents,
merci,
de
s'assurer, Serge,
si l'enfant termine son examen,
qu'il rentre directement à la maison. Merci Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG IMAE. Excellente journée et à la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la fréquence et la paix et à la prochaine.